Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, vendredi, une journée grise est probablement un moment tout indiqué pour vous dire à quel point la lumière est importante et précieuse pour nous, pour notre humeur, notre santé, notre sommeil, notre mémoire et même nos capacités d'apprentissage. En deuxième partie d'émission, Jocelyne Gadboil, qui est infirmière, sera là pour nous en parler davantage. Et puis d'abord, vous dire que si vous allez farfouiller sur le site de la Fondation de psychologie du Canada, vous pourrez y lire que le stress chez les enfants a augmenté, selon une estimation, de 45 % au cours des 30 dernières années. C'est quand même beaucoup. Le stress, bien sûr, vous allez me dire, ça fait partie de la vie, les adultes en vivent, les enfants aussi peut-être. Et ça peut en effet être positif, stimulant, et c'est difficile à éviter. Toutefois, un niveau de stress qui est trop élevé, ça a un impact négatif sur les enfants et ça peut même engendrer des troubles de comportement. Comment on peut reconnaître le stress chez les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire? Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment à ce groupe d'âge-là et comment, en tant que parent ou tout adulte signifiant, on peut les aider à mieux le gérer. J'en parle avec Francine Tellier, chargée de projet à l'Association québécoise des CPE. Bonjour Francine.
Bonjour.
Évidemment, d'entrée de jeu, je veux spécifier que le programme Nos enfants et le stress, c'est une initiative de la Fondation de psychologie du Canada. C'est pour aider les parents, les intervenants, les éducateurs, bon, d'entrée de jeu, à être sensibilisés au stress vécu par les petits, puis après à donner des stratégies, des outils très concrets. Pourquoi l'Association des CPE a eu envie de se joindre à la Fondation de psychologie du Canada? J'imagine parce que vous observez que les enfants en CPE vivent du stress aussi.
Oui, ça fait partie des observations. D'ailleurs, pourquoi on s'est... on a fait un partenariat avec la Fondation psychologie du Canada, c'est que on a découvert que leur programme correspondait beaucoup à notre programme éducatif et effectivement que souvent les tout-petits, de par leur comportement, on essaye de trouver, essayer de comprendre ce qui se passe. Souvent, on va s'arrêter au comportement, mais il y a plein de choses qui sont là que les enfants vivent. Donc, je trouvais que le programme nous aidait vraiment à avoir un autre regard, une autre paire de lunettes sur qu'est-ce que les tout-petits peuvent bien vivre au quotidien. Mm-hmm. On parle de stress, vous en avez parlé tantôt en disant, oui, souvent, c'est quand même un phénomène nouveau de se questionner sur le stress chez les enfants.
Ouais.
Effectivement, il y a eu des évolutions dans la recherche au niveau du développement du cerveau qui ont fait en sorte de dire que oui, les enfants, eux aussi, peuvent vivre du stress. Alors, voilà. Comment on peut aider les tout-petits à reconnaître mm-hmm. et nous le reconnaître aussi?
Oui, probablement d'abord en tant qu'adulte.
Oui.
Et d'ailleurs, la Fondation de psychologie du Canada a fait des brochures à cet effet, des documents hyper bien détaillés, vulgarisé et c'est bien sûr disponible pour le grand public. Donc déjà, c'est un grand pas, c'est un bon début là, pour les parents ou les grands-parents. En fait, comme je le disais, d'entrée de jeu, tous les adultes signifiants autour d'un enfant qui ont envie d'être sensibilisés un petit peu plus au stress vécu chez l'enfant. On parle d'enfants d'âge préscolaire aujourd'hui, Francine. Donc, parfois des enfants qui parlent peu ou peut-être même qui ne parlent pas encore. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent. Quels sont les signaux? Comment on peut détecter le stress chez l'enfant?
Il y a plein de facteurs qui vont nous... des signes que les enfants vont nous lancer. Et c'est la complexité de ça, c'est que chaque enfant est différent. Donc, c'est des situations qui provoquent le stress. Le stress, c'est une réaction à un événement qui va arriver. Donc, la façon de réagir à ces événements-là va être différente d'un enfant à l'autre. Mais c'est sûr qu'on les signe que les enfants peuvent nous démontrer un des premiers et vraiment des réactions au niveau du comportement. Ils vont réagir, ils vont être un petit peu plus irritables, peut-être même plus fatigués. On va remarquer aussi, bon, ils peuvent avoir mal, sentir certains malaises.
Mm-hmm.
Mais on peut comprendre qu'un tout petit de 2 ans et demi à 5 ans, déjà d'exprimer leur malaise, comment ils se sentent, c'est difficile. Mm-hmm. Donc, c'est des signaux comme ça. Dès qu'on peut remarquer des changements dans le comportement, des changements dans l'humeur, des changements dans le quotidien, la façon que l'enfant vit au quotidien, bien, je pense que là, on peut commencer à avoir un bon indicateur à essayer de chercher qu'est-ce qui peut préoccuper notre tout petit.
Et j'ai l'impression que le point de départ, c'est un petit peu tranquillement changer la perception même des parents. Parce que souvent, quand notre enfant a un comportement que l'on juge dérangeant, c'est-à-dire une colère, des chichis, des caprices, bon, on attribue ça à soi, à sa personnalité, on se dit « Ah bon, il est difficile aujourd'hui », mais en dessous de ça, il peut y avoir du stress.
Oui, tout à fait. Le stress pour l'enfant, qu'est-ce qu'il pourrait... parce que souvent, on se dit, oh, c'est nous qui sommes stressés, les adultes, hein, parce que c'est une affaire d'adulte.
Ouais.
Et puis, mais le stress chez un enfant peut... Et souvent, des petites choses pour nous, mais qui sont énormes pour eux.
Mm-hmm.
Nous, on a appris avec le temps à apprivoiser différentes situations. Mais les enfants, les situations nouvelles sont une source de stress.
Mmh.
Il faut essayer de se mettre à la place d'eux. Ils ont de gros souliers à chausser, nos petits. Ouais.
Les transitions aussi, j'imagine, ça, les changements, bien sûr, les transitions, tout ce qui amène des modifications à leurs habitudes, à leur routine, ça peut être stressant.
Les transitions, les changements, les endroits qu'on ne connaît pas, les personnes qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Une source de stress qui peut sembler très banale pour nous, mais le fait que mon ami n'est pas là aujourd'hui, mon jouet, il est brisé.
Intervenante est malade, c'est une remplaçante.
Mon intervenante est remplaçante. Ouais. Je suis invitée à une fête d'amis. Ça en est une source de stress. Donc, toute transition, changement est à soigner quand on est près des tout-petits.
Mm-hmm. Il y a deux types de stress chez l'enfant. Le stress qui est quotidien et le stress à long terme. Et les deux n'ont pas des impacts semblables. Est-ce qu'on peut les départager?
Oui. Le stress à court terme, qu'on appelle le stress quotidien, bien, c'est les situations normales de la vie qu'on va... toute personne va avoir à vivre à un moment donné dans sa vie, comme par exemple, rencontrer des nouvelles personnes, aller chez le médecin, aller chez le dentiste. Alors ça, c'est des choses que, oui, ça l'amène du stress. Alors ça, c'est du stress par lequel on va apprivoiser, on va apprendre, lorsqu'on est bien soutenu par un adulte, à passer à travers et apprivoiser ces moments-là, c'est normal. Tandis que le stress à long terme, bien, c'est les situations où est-ce que... les situations qui sont plus difficiles, les moments plus durs à passer. Donc, on va parler les séparations, les déménagements.
C'est l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur.
L'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur. Des décès dans la famille et tout ça. Alors, le stress à long terme, c'est ce qui va faire la différence entre le stress à long terme, c'est aussi des choses qui vont arriver dans la vie. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment l'enfant va être entouré, accompagné, soutenu pour passer à travers ces périodes-là. Oui.
Et les outils aussi, j'imagine, qu'on apprendra à développer et avec lequel on pourra l'encadrer en tant qu'adulte. J'imagine que de se mettre un petit peu la tête dans le sable, là, de jouer à l'autruche, c'est pas aider notre enfant à vivre ou à exprimer son stress.
Non, puis je pense qu'une bonne façon, parce que faut qu'on, tu sais, on comprend que nous, on a à un moment donné notre parcours d'adulte, on a vécu et tout ça, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de le rôle qu'on a, c'est vraiment d'être près de l'enfant, sécuriser ces moments-là. Et il y a plein de... C'est parce que j'avais autre chose en tête.
Vous pourriez revenir, il n'y a pas de souci.
Pourriez-vous...
On va continuer, Francine Tellier. Comment on peut exprimer, en fait, amener notre enfant à exprimer son stress? Est-ce qu'on peut lui poser des questions de façon bien concrète?
C'est sûr que oui. L'écouter. Mm-hmm. S'arrêter pour faire le point, lui demander comment il se sent, lui demander qu'est-ce qui se passe en dedans de lui, qu'est-ce qu'il préoccupe.
Mm-hmm. Alors, aller de l'avant,
oui, c'est ça. Le parent, là, c'est l'expert de son enfant. Mm-hmm. Donc, dès que vous sentez que quelque chose qui semble préoccuper votre enfant, prenez les devants. Mm-hmm. Démontrez que vous sentez qu'il y a quelque chose et ouvrir cette porte-là. Mm-hmm. Regardez, observez votre enfant, son non-verbal. Regardez comment s'est passé les derniers jours et écoutez.
Oui. Le réconfort aussi, et ça, les brochures qui sont offertes par la Fondation de psychologie du Canada en parlent beaucoup. L'enfant, bien sûr, quand on est adulte et on s'en rend peut-être pas compte, mais on a appris à se réconforter soi-même. On a trouvé des outils, des astuces dans notre quotidien pour, quand il arrive un pépin, un souci, se réconforter, aller de l'avant. La résilience, quoi, qui est à différents niveaux chez chaque être humain, bien sûr, mais l'enfant n'a pas encore en lui cette capacité de se réconforter lui-même.
Bien, je vous dirais que oui. Il est démontré qu'un enfant, même à sa naissance, il y a déjà certains réflexes d'autorégulation, par exemple, sucer son pouce.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Ah, voyez-vous, il y a déjà certaines compétences qui sont là. Bien entendu que ces compétences-là, comme sucer son pouce, il y en a des enfants qui vont peut-être jouer avec leurs cheveux et tout ça. C'est tous des moyens que les enfants vont prendre pour se régulariser.
Oui.
Mais je pense que notre rôle est de leur offrir des outils pour leur permettre de découvrir autres moyens tout au long de leur croissance. Parce qu'un enfant a tout à découvrir. Il n'y a pas toutes les compétences, les habiletés. Mm-hmm. Et ça vient avec l'expérience. Donc, ce que le programme de la Fondation Psychologie du Canada, avec leurs différents outils, propose vraiment des outils, des stratégies faciles pour, je dis tout le temps, de mettre différents outils dans le sac à dos de l'enfant, mm-hmm. qui vont lui servir plus tard.
Si l'enfant vit du stress à la garderie, aussi, bon, on a cette intuition-là que ce milieu-là est peut-être source de stress pour lui, de tension. Comment on peut aborder cette situation-là avec le personnel de la garderie?
Une des façons, je vous dirais, c'est le travail de collaboration entre le parent et le personnel éducateur. Je pense que la communication, le partenariat qui existe entre les deux pour le bien-être de l'enfant est primordial. Donc, je pense qu'il y a une belle collaboration de partage aussi entre les deux milieux, à savoir bien comment les choses que l'enfant peut vivre à la maison et au service de garde, donc de mettre ça ensemble puis d'accompagner l'enfant à mieux passer ces petits moments qui sont plus difficiles, mais d'essayer de comprendre. Donc, en premier lieu, c'est vraiment cette communication-là, collaboration avec les parents. Mais après ça, il y aurait de sécuriser. Donc, si c'est l'enfant, c'est dans ses premières journées, aller visiter avant, d'avoir un peu une idée de où est-ce qu'il s'en va. Ensuite, il y a toujours, il peut apporter un objet de la maison pour emmener au service de garde, au CPE. Il y a aussi...
de sentir que aussi le parent est là pour l'accompagner. On parlait de transition tantôt. Si elle va vite, on laisse notre enfant, on quitte pour le boulot en courant. Peut-être que l'enfant sent un petit peu ébranlé par
tout
ça.
Tout à fait. Prendre le temps à l'arrivée aussi pour discuter, comme je disais, avec l'éducatrice, mais aussi de faire le passage entre l'éducatrice et le parent, mais aussi au retour.
Ouais,
hein, quand on revient, aussi, une fois rentré à la maison, parce que ça va vite, hein? Alors, une fois rendu à la maison, de prendre du temps, une petite zone confort, où est-ce que là, on peut se coller et puis se parler de toutes sortes de choses, mais de prendre ce temps-là aussi. Mm-hmm. Donc, ça va permettre vraiment aux deux, hein, aux parents et à l'enfant, de se situer là maintenant. Et puis, je dois ajouter aussi que c'est un peu normal aussi que nos petits poux fassent des petites crises le soir, parce que c'est sûr qu'une journée... en CPE, avec plein de monde, c'est une journée de travail.
Très stimulé aussi, oui, voilà.
Mais c'est une journée de travail pour eux, hein, donc...
Et je lisais, c'était assez intéressant de s'attendre, comme vous venez très bien de le mentionner, Francine Tellier, qu'il faut s'attendre à ce que l'enfant ait des comportements un petit peu plus troubles, des crises, justement, à la maison, parce que souvent, il s'est retenu. Toute la journée pour avoir des bons comportements, pour bien fonctionner en groupe. Mais là, à la maison, il peut se laisser aller avec papa-maman.
Oui.
Donc, d'apprendre aussi à gérer ces situations-là un petit peu plus délicates. En terminant, on ne peut pas éliminer le stress, bien sûr, dans la vie de nos enfants. Francine, est-ce que l'on peut ou est-ce que c'est souhaitable de diminuer les sources de stress à la maison?
Tout à fait. Les sources de... Il y a des petites choses, hein, vraiment simples, comme par exemple prendre le temps à la maison, prendre le temps de rigoler, d'avoir de prévoir des routines. On parle beaucoup de la routine du coucher, hein. Oui, c'est important d'avoir du temps pour le coucher, mais la routine du matin aussi, parce que c'est souvent là, hein, que...
C'est souvent précipité.
C'est souvent précipité, souvent beaucoup de pression qui se fait là. Donc, de prévoir une petite routine de matin. Écoutez, on ne beurra jamais assez dans les câlins et l'affection et tout l'amour qu'on peut montrer à nos enfants. Et aussi, c'est correct de ne pas d'avoir rien à faire aussi. Parce que les enfants ont aussi besoin de calme et de ne rien faire. Donc, de profiter et de s'accorder aussi des périodes où est-ce qu'on n'a rien à faire que d'être ensemble et d'être bien ensemble.
Sur ces magnifiques paroles, Francine Tellier, vous êtes chargée de projet à l'Association québécoise des CPE. Merci beaucoup. On mettra les renseignements sur notre site parce que, comme on le disait, les brochures qui sont offertes par l'Association de psychologie du Canada sont très, très bien faites. Outils formidables pour les parents.
Je dois ajouter, elles sont gratuites et téléchargeables en ligne. Alors, il y a plein de choses à
pourquoi ne pas s'en servir?
Exactement.
Merci.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220 et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Journée grise aujourd'hui, mais je le disais tout à l'heure, peut-être journée idéale pour parler des effets positifs de la lumière sur notre santé. Et quand on s'y penche, on réalise qu'il y en a beaucoup, autant sur l'espérance de vie et aussi on pourrait se servir de la lumière pour contrer l'obésité. La liste est longue des bienfaits.
Ben oui, les lumières, on a fait beaucoup d'études dans les dernières années là-dessus pour se rendre compte que la luminothérapie avait vraiment des bons taux de succès. Et ça sert beaucoup pour traiter la dépression saisonnière ou d'autres types de dépression même également. Ça aide beaucoup pour les décalages horaires quand on fait des voyages ou qu'on a des horaires de nuit, par exemple. Mmh. Et ça va effectivement réduire les symptômes dépressifs qui peuvent être relatifs au syndrome prémenstruel même.
Ah oui.
Ah oui, absolument. Puis ça peut aider pour réduire les crises de boulimie.
Ah ouais. Ben, alors lié aux troubles alimentaires, un petit peu comme je le mentionnais avec l'obésité, j'étais pas loin. De quelle façon, bon, on en parle, comme vous le disiez, Jocelyne, on en parle de plus en plus, il y a des études sur le sujet. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est comment notre corps réagit à la lumière, comment il l'intègre.
Comment ça se passe, hein? Oui, c'est un petit peu intriguant. Bon, simplement, c'est l'exposition à la lumière et ça passe par les yeux. Mm-hmm. Ça rentre dans le corps par les yeux et de là, ça va envoyer des signaux électriques et ça va vraiment se rendre jusqu'aux neurotransmetteurs. Et c'est à partir de ces signaux de neurotransmetteurs que là, on va retrouver notre mélatonine, qu'on a déjà parlé, et qui vont vraiment travailler sur l'hormone du sommeil, qui est celle-là, la mélatonine, ou qui vont vraiment régulariser ces hormones qui nous aident dans notre rythme circadien. Mmh. C'est par les yeux que ça se passe.
C'est assez fascinant, ça.
C'est fascinant, absolument, c'est fascinant. Alors, on me demandait que peuvent faire les travailleurs de nuit par rapport à la luminothérapie. C'est sûr qu'on va comparer ça au voyage, au dérangement du cycle sommeil. On appelle ça sommeil-éveil. Dans un 24 heures, ça s'appelle un rythme circadien. Mm-hmm. Alors, eux, c'est à l'envers des gens. Normalement, on suggère d'exposer 30 minutes avec la lampe spéciale dont je vais parler tout de suite après, le matin, pour qu'on puisse avoir vraiment la stimulation nécessaire pour la lumière, pour agir sur nos symptômes qui peuvent être la boulimie, qui peuvent être la fatigue, qui peuvent être vraiment un besoin exagéré de sommeil. Alors, on veut stimuler. Ça peut même travailler sur la libido et évidemment les besoins de sucre, les hydrates de carbone comme pain, pâtes, pommes de terre également. Alors, ça va jouer sur un ensemble de systèmes dans notre corps. 30 minutes le matin.
Mais encore...
Là, on va le faire le soir pour les gens qui travaillent de nuit.
C'est bien voilà. Cette lampe-là, mais on ne l'a pas tous à la maison. On n'a pas tous nécessairement les moyens de s'acheter cette lampe-là. Comment on peut faire? Si on ne l'a pas, on va prendre des marches à l'extérieur?
Bien, aller dehors, à l'extérieur, la lumière du soleil, elle équivaut à 100 000 lux. Mm-hmm. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, oui, certainement.
Oui, d'accord. Alors, la lumière du soleil, c'est 100 000 lux. Alors, quand on parle d'une lumière qu'on achète, alors, ça, c'est 10 000 lux et au minimum 2500 lux.
OK.
Et puis, vous me parliez de la lumière bleue.
Oui, la lumière artificielle, c'est quelque chose qui m'intéressait.
Oui, bon, c'est les DEL, c'est nouveau sur le marché. Alors, on dit qu'à long terme, ça peut vraiment avoir des problèmes pour les yeux. Parce que c'est pas suffisant comme nombre de lux.
Mm-hmm.
C'est 2500 lux, la DEL. On ne la recommande pas à long terme.
OK.
OK?
Oui.
On peut aller s'acheter une lumière pour luminothérapie. À la pharmacie, ils en vendent tous, des modèles sur table, des modèles sur pied également.
OK.
Et il y a des instructions d'utilisation qu'on suit religieusement.
Oui. Jocelyne, je reviens à la lumière artificielle parce que ça m'intéresse mmh. beaucoup. C'est quoi la lumière artificielle? C'est celle que l'on retrouve dans nos écrans de téléphone, d'ordinateur?
Ben, c'est la lumière régulière qu'on a dans nos bureaux, mais mmh. particulièrement les fluorescents. Alors, les fluorescents peuvent être agressants et n'ont pas l'effet de luminothérapie recherché.
OK. Mm-hmm.
Alors, moi, je connais ça dans la manière où je faisais changer mes globes lumineux et fluorescents par des globes, c'est pas des globes, c'est des tuyaux lumineux rosés, ce qui donnait une lumière pas du tout agressant.
Mm-hmm. Oui, alors, c'est ça. Il faut se donner des petits trucs comme ça, parce que la lumière, elle est partout, évidemment,
oui.
dans nos bureaux, à l'école et dans tous les lieux publics. Donc, comment s'en prémunir, comment s'en protéger? J'aurais aimé avoir plus de temps pour continuer à parler des effets, des bienfaits de la lumière et également de comment se protéger de la lumière artificielle. Justine Gadebois, on s'en souhaite de la lumière, hein, du bon temps, parce que
Oui,
on s'en souhaite.
Oui.
Jocelyne Gadebois, vous êtes infirmière. Toujours un plaisir de vous parler.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Hermie Hermoso à la mise en onde. Marianne Paquette au micro qui, oui, vous souhaite de la lumière pour cette fin de semaine. J'ai pas regardé la météo, mais on se croise les doigts. Je vous souhaite de bien vous porter et nous, on se retrouve lundi. Bye-bye.